Ce soir, j'aimerais parler de la vie chrétienne normale vue dans l'épître aux Éphésiens. La vie chrétienne normale, pourquoi normale? Parce que c'est celle que nous devrions connaître et que souvent nous ne vivons pas. Nous vivons bien en dessous de la normale. Et cette vie chrétienne normale qu'on va regarder dans Éphésiens, elle nous paraît idéale, elle nous paraît trop élevée. On se dit, ah oui, mais ça c'est pour les super saints, c'est pour les grands missionnaires, Hudson Taylor ou je ne sais pas. Mais moi, je ne vois pas, je ne suis pas concerné. Mais si, l'épître aux Éphésiens, comme toute la parole de Dieu, c'est pour nous, chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a des destins extraordinaires. Moïse a eu un appel particulier, Esther, la reine Esther, Marie, la mère de Jésus, Paul, l'apôtre. Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés, comme Moïse, à délivrer le peuple et le faire passer à travers la mer Rouge et dans le désert. Nous ne sommes pas tous appelés à être roi ou reine. Nous ne sommes pas tous appelés à porter le Messie, c'est déjà fait. Et ça ne peut pas arriver une seconde fois. Nous ne sommes pas tous appelés à évangéliser le monde romain, comme l'a fait Paul. Mais même si nous n'avons pas un destin extraordinaire, nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons des promesses extraordinaires, nous avons un Saint-Esprit qui nous est donné, qui vit en nous, qui est extraordinaire, et qui nous appelle à une vie chrétienne normale, qui nous paraît extraordinaire, mais qui est en fait normale aux yeux de Dieu. Nous sommes souvent faussement humbles, trop modestes en disant « je ne suis qu'un tout petit chrétien ». Moi, je vais à l'église le dimanche et puis c'est tout. Je lis un peu ma Bible, je prie de temps en temps. Mais la vie chrétienne normale, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus par l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a donné un grand salut déjà. Un salut extraordinaire. Parce qu'il est venu par un grand sauveur qui est Jésus-Christ. Et s'il nous donne un grand salut, ce n'est pas pour qu'on vive comme des chrétiens lamentables. C'est pour qu'on vive une vie victorieuse. Une vie victorieuse, ça ne veut pas dire ne jamais avoir aucun problème ou ne jamais être déprimé ou découragé. Ce n'est pas ça une vie victorieuse. Ce n'est pas cet idéal, encore une fois, qui n'est pas dans la Bible. Une vie victorieuse, c'est avoir des combats, des luttes, des difficultés, mais c'est les surmonter par la foi et toujours vivre pour la gloire de Dieu et non pas pour sa propre gloire. L'épître aux Éphésiens est l'épître par excellence qui nous parle de cette abondance de Dieu, de la plénitude. C'est l'épître où le mot plénitude, plein, revient souvent. Le mot de la richesse aussi, c'est ce Spurgeon, le prédicateur anglais, qui disait que trop de chrétiens vivent comme des clochards spirituels, des mendiants. Ils quémandent auprès de Dieu quelques bénédictions qu'ils ont à leur disposition, une fortune spirituelle, des richesses incommensurables. Alors on va voir un certain nombre de versets, on va parcourir l'épître, la survoler, et vous allez voir les perles qui s'y trouvent, il faut les ramasser. Il y a quelques jours, on a découvert la plus grosse émeraude du monde, qui est grande comme ça, c'est-à-dire elle fait quasiment 80 cm de largeur. Une émeraude, je ne sais pas si vous imaginez la taille de cette pierre. Mais ces pierres, aussi belles soient-elles, il faut aller les chercher. Elles sont souvent cachées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà découvert des pierres semi-précieuses. Elles sont entourées d'une gangue marron ou grise qui ne laisse rien présager. Il faut les casser et à l'intérieur, vous avez ces coloris violets, verts, magnifiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les géodes. Et les pierres précieuses sont un peu dans le même ordre d'idée. Ça se trouve dans la terre comme ça. Et puis d'un seul coup, vous frottez un petit peu et vous avez quelque chose qui brille. Mais au départ, elle est cachée. Et je trouve que les promesses de Dieu, en ce côté-là, un peu, il faut aller quand même les creuser, les chercher et les saisir en disant « c'est pour moi ». Éphésiens 1, 3 est la première perle, la première pierre précieuse. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est une bénédiction, une louange que fait l'apôtre Paul là, dans sa lettre. Il parle de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, pour nous dire que le Père nous a bénis. Pourquoi il dit le Père du Seigneur Jésus-Christ ? C'est que déjà, Christ nous a bénis en mourant pour nous, en nous sauvant. Alors imaginez le Père de Christ. Notre Père céleste, il veut nous bénir. Mais ce n'est pas qu'il veut nous bénir, c'est qu'il nous a bénis, puisque c'est écrit « il nous a bénis ». Nous n'avons pas à réclamer à genoux les bénédictions de Dieu. Nous n'avons pas à pleurer pour qu'il nous bénisse. Très souvent, les chrétiens prient ou encouragent les uns les autres en disant « Ah, j'espère que Dieu va nous bénir ». Mais théologiquement, c'est vraiment faux cette expression. « J'espère que Dieu va nous bénir ». Mais il nous a bénis. Et en plus, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors c'est là qu'il y a une différence, c'est qu'il parle de bénédiction spirituelle. Pour nous les chrétiens et pour l'Église, les bénédictions sont surtout spirituelles. Pour Israël, dans l'Ancien Testament, c'était premièrement matériel et deuxièmement spirituel. Mais nous, c'est premièrement spirituel, deuxièmement matériel. Mais Dieu nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu nous a bénis quand on sera au ciel. Parce qu'on pourrait interpréter ça comme ça. Oui, quand je vais mourir et aller au ciel, là, je serai béni. Non, c'est que les bénédictions sont placées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes ? Ben, il faut aller un peu plus loin dans l'Épître, au chapitre 2. Voilà, verset 6, il parle de nous et de Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce que Éphésiens 2, 6 nous apprend, c'est que si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes déjà ressuscités et assis dans les lieux célestes. On n'a pas besoin de mourir pour ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on est ressuscité et assis dans les lieux célestes ? Tout ça est spirituel. Ça veut dire que si nous avons mis notre foi en Christ, nous sommes déjà assis à la droite du Père avec Christ dans les lieux célestes, ayant toute bénédiction disponible. Nous sommes dans une position avec Christ, presque d'autorité, assis dans les lieux célestes, ressuscités avec Christ. Bien sûr, nous sommes en réalité sur la terre, dans notre corps faillible, mais spirituellement, notre position, c'est à côté de Christ, sur son trône. Et ça nous donne une autre position pour prier. Quand vous êtes en bas et que vous priez vers le haut, c'est un peu difficile parce que vous espérez que ça va monter, et que ça va dépasser le plafond, que votre prière, Seigneur, veuille bien m'entendre. Mais quand vous êtes en haut, vous êtes assis avec Christ. Et que vous priez vers le bas, on pourrait dire. Seigneur, je suis avec toi, tu m'as sauvé, tu m'as purifié, je suis ton enfant, tu me présentes toutes les bénédictions spirituelles. Ces bénédictions spirituelles, justement, sont là pour que le chrétien ait une vie chrétienne abondante d'abord, une vie de victoire sur le péché, sur les obstacles divers qui s'opposent à lui, sur son propre égoïsme, qu'il soit rempli d'amour, rempli de joie, de paix, et qu'il puisse bénir les autres, évidemment. Ces bénédictions ne sont pas égoïstes. Quand on est vraiment près de Christ, on n'est plus égoïste. Au contraire, on veut donner en permanence. Mais on est béni de toute bénédiction. Alors, comment doit-on prier maintenant pour bénir ou être béni ? Seigneur, aide-moi à voir tes bénédictions. Aide-moi à saisir les bénédictions que tu m'as déjà données. Mais ne pleurnichons plus devant Dieu en disant « Seigneur, veuille bien me bénir ». Mais si tu es avec Christ, si tu es en Christ, tu es déjà béni. Il nous a bénis. Et donc un chrétien, une vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne bénie spirituellement. Et si un chrétien dit, mais moi, voilà, je n'ai pas de joie, je ne progresse pas, je n'avance pas dans ma vie chrétienne, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que des fois, on le présente de telle façon, on dit, si j'avance pas dans ma vie chrétienne, c'est parce que Dieu ne répond pas à mes prières. Ou c'est parce que Dieu, je ne comprends pas, il me bloque, il ne veut pas que j'avance. Si, 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 Dieu nous a déjà bénis, spirituellement, complètement, on n'a plus besoin de rien d'autre, il nous a déjà tout donné. Si on n'a pas saisi, c'est notre faute, et c'est à nous d'aller saisir ces bénédictions. Chapitre 1, verset 7, « En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Nous sommes rachetés par le sang de Christ, c'est-à-dire le sang précieux de notre Sauveur, à payer pour nos fautes. Pour le pardon, la rémission des péchés, c'est-à-dire que nos péchés sont absolument absous, pardonnés, selon la richesse de sa grâce, c'est-à-dire Dieu n'est pas radin lorsqu'il pardonne, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait du troc en disant « Je te pardonne si tu es fidèle jusqu'à la fin de tes jours » ou « Si tu fais 3 ave et 1 et 4, etc. » « Je te pardonne si tu demandes pardon et si tu crois en mon Fils. » Et le pardon en Jésus-Christ est complet. Et on a une assurance quand on a le Seigneur. Nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés. Nous l'avons. Nous avons la rémission des péchés. Je l'ai. Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai le pardon des péchés. J'ai la rémission de mes péchés, je suis absous. Ou est-ce que vous dites, j'espère que Dieu me pardonne. J'espère avoir le pardon de mes péchés. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne normale. Vous n'avez pas saisi ce verset, hein, cette promesse extraordinaire. Chapitre 1, verset 18, il nous parle d'autre chose. Paul prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Peut-être que vous êtes pauvre matériellement, peut-être que vous avez des ennuis financiers, des ennuis de logement, des ennuis de fin de mois, des difficultés. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'éducation, de culture, de connaissances. Mais cela a peu d'importance aux yeux de Dieu, parce que si vous êtes son enfant, il y a pour vous une espérance et un héritage glorieux. Ouvrez les yeux de votre cœur pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à son appel. Quand le Seigneur vous appelle à lui et vous sauve, il vous donne une espérance que nul autre n'a, qui ne peut même pas s'acheter, tellement elle est extraordinaire. L'espérance d'aller au ciel. Il y a des gens très très riches. Il y a des gens très puissants sur la terre et qui paieraient cher pour avoir l'assurance d'aller au ciel. Et quand on leur parle de l'évangile, ils disent « Non, 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 c'est pas ça, je veux autre chose, je veux payer. » Mais on ne peut pas payer la vie éternelle. Et surtout, ces personnes-là, souvent, ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Ils aimeraient aller au ciel, au paradis, en continuant de pécher. Et ça, c'est une impossibilité. Au paradis, dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de péché. C'est la Bible qui le dit, il n'y a aucune injustice, rien d'impur, rien de souillé dans la Jérusalem céleste. Mais cette pureté, cette justice nous est donnée par Jésus-Christ, quand on croit. Et gratuitement, nous avons une espérance immense, extraordinaire. Et même si on est malade, même si on est pauvre, même si on a des difficultés, franchement, il y a de quoi se réjouir tous les matins et tous les soirs et tous les après-midi en pensant à la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Imaginez que vous habitiez une petite bicoque, vous avez une seule pièce, vous avez un petit chauffe-eau qui marche mal, vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de vêtements, et on vous dit, quand ton oncle va mourir, ton oncle d'Amérique, hein, c'est classique, tu vas hériter d'une maison de 120 pièces, avec chauffeur, cuisinière, enfin femme de chambre, etc., piscine. Ben, je pense qu'on supporterait mieux l'attente, hein, en se disant, bientôt, je vais avoir ça. Mais ça, c'est seulement sur le plan matériel, c'est bassement matériel même. Mais maintenant, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'épanouissement de l'être, hein, peut-être nous ne sommes pas merveilleusement intelligents ou je ne sais pas quoi, ou riches sur la terre, mais il y a une gloire, un héritage qui nous est réservé, qui est même impensable tellement il est élevé. Quand on va arriver là, on va dire, mais c'est pas pour moi, vous avez fait une erreur. Ça doit être pour un grand pasteur, là, ou pour Paul, ou Moïse. Ou... Non, c'est ta place, là. Vous savez, quand Jean décrit la Jérusalem céleste, il voit de l'or partout, du diamant partout, des perles géantes. Et il n'arrive pas à décrire tellement c'est luxueux, mais dans un sens luxuriant. Hein, c'est une beauté à vous couper le souffle. Quand on sera là, on va dire, mais je ne mérite pas d'être là, franchement. Et pourtant, cela nous est donné. Chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La vie chrétienne normale, c'est une vie qui produit du fruit. C'est une vie qui est remplie de bonnes œuvres. Juste avant, il dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Donc il précise bien, attention, ne vous méprenez pas. Vous êtes sauvés par pure grâce. C'est-à-dire, un jour vous avez demandé pardon, vous êtes venu sale, pécheur, en disant, Seigneur, je mérite la mort et l'enfer, mais veuille me gracier à cause de Jésus-Christ qui est mort pour moi. Et le Seigneur nous a graciés. Nous, des coupables. Donc, ce n'est pas par des œuvres qu'on peut être sauvé. Par contre, quand on est sauvé, c'est pour des œuvres. Hein. Il dit bien ici, pour de bonnes œuvres. Et le chrétien doit être quelqu'un rempli de bonnes œuvres. Il doit tout le temps être en train de faire du bien à droite et à gauche. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine de donner une pièce à un mendiant ou de, je ne sais pas, d'envoyer un chèque au Secours catholique ou quelque chose comme ça. Faire du bien, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Et il veut qu'on pratique ces bonnes œuvres. Ça veut dire que tous les jours, le Seigneur met devant nous des bonnes œuvres à accomplir. Ça peut être avec notre conjoint, envers notre conjoint. Ça peut être envers notre enfant, bien sûr. Nos enfants. Ça peut être envers notre voisin, notre collègue, notre patron, chauffeur de bus, la personne en face dans le métro. Dieu place devant nous des bonnes œuvres à pratiquer. Et il faut être toujours un peu aux aguets. Seigneur, qu'est-ce que tu me prépares aujourd'hui? Plutôt que d'être dans notre couloir un peu, hein. Bon, il faut que j'aille au boulot, il faut que je ne sois pas en retard. Et puis au boulot, oh là là, ils vont me demander ça. Et puis, et on est dans notre couloir et on ne voit plus personne. On est absorbé par nos soucis. Et un chrétien absorbé par ses soucis ne voit plus les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Parce que les bonnes œuvres, il faut sortir de soi. Et à un moment, le Seigneur met sur notre chemin quelqu'un qui va nous retarder. Hein, une voisine ou un voisin qui, « Ah, comment ça va ? » ?»« Ça va bien, ça va bien. Mais... » Oui, alors, et alors, et la famille, ça va. Alors, puis on est là, on regarde la montre, hein, vite. Et on ne se rend pas compte que cette personne a besoin, à ce moment-là, d'entendre quelque chose de la part du Seigneur. Elle a besoin d'un geste, peut-être, qui va l'amener à réfléchir sur sa vie. Il faut être attentif. C'est ça, la vie chrétienne normale. Toujours les bonnes œuvres. Créer d'avance pour de bonnes œuvres. Éphésiens 3, 8. On revient au thème des richesses. à moi qui suis le moindre de tous les saints, écrit l'apôtre Paul. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incommensurables, on pourrait dire aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. La vie chrétienne normale, c'est une vie riche spirituellement. Encore une fois, on n'est pas tous missionnaires en Nouvelle-Guinée avec tous les jours des défis terribles à relever. On n'a pas à se battre contre des serpents ou des cannibales ou je ne sais pas quoi. Quoique, bon, à Paris, on a des difficultés dans le métro parfois. Mais chacun ses défis, chacun ses problèmes là où il est. Mais ce qui est merveilleux, c'est que pour tous, il y a la même richesse incommensurable de Christ. C'est-à-dire, c'est tellement riche qu'on n'arrive même jamais au bout. On ne peut pas épuiser la richesse de Christ. Quand je suis dans la peine, la consolation de Christ est plus abondante que ce que je peux même imaginer. Dieu ne veut pas me donner des gouttes de consolation en disant « Bon, allez, je vais te donner un petit peu, te relever pendant 5 minutes ». Non, il veut donner des océans de consolation. Quand nous sommes découragés dans notre foi, on dit « Oh là là, il n'y a rien qui se passe de bien, et j'ai que des problèmes, les gens me critiquent, ou les gens ne sont pas gentils, quand j'essaie de parler de Dieu, c'est encore pire. » Vous êtes découragés, mais le Seigneur a des trésors de force, d'encouragement qui dépassent l'imagination. Il peut vous donner un tel encouragement que vous ne serez jamais plus découragé. Il y a des chrétiens qui ont cette faculté de ne jamais se laisser décourager, même par les pires situations. Et vous les voyez, ils tombent, ils se relèvent et c'est reparti. L'apôtre Paul est vraiment l'image la plus frappante lorsqu'il a été lapidé sur place. Il a été pris à partie par un groupe de judéens qui n'aimaient pas ce qu'il disait. Et ils l'ont. Lui ont jeté des pierres, mais sans crier gare, comme ça. Ils l'ont laissé pour mort. Et la Bible dit que Paul s'est relevé. Quelques minutes après, les disciples sont venus le secourir. Ils ont dit, ça y est, ils l'ont tué, là c'est bon. Paul se relève et il rentre dans la ville, là où on l'avait lapidé. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Il n'y a pas à dire, oh Paul, c'est Christ dans Paul qui a fait ça. Peut-être que vous avez peur d'aller au travail parce qu'il y a un collègue qui est difficile ou un patron difficile. Christ veut vous donner cette force morale, mentale même, pour l'affronter chaque jour avec amour, douceur, paix, sagesse, prudence. Mais Dieu peut vous donner cette force chaque jour. Éphésiens 3:16, et c'est la suite en parlant de la force. Paul prie afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui ? C'est notre âme, c'est notre être profond. Puissamment, Paul ne peut pas écrire des choses toutes simples. Il ne peut pas dire « afin que vous soyez fortifié ». Il dit non, puissamment fortifié. Parce que quand Dieu agit, c'est puissant. Éphésiens 3:17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Là, il faut imaginer à la place du mot habite, il faut mettre soit chez lui ou soit dans sa maison. En sorte que Christ se sente chez lui dans vos cœurs. Alors on pourrait dire, mais ça va de soi. Si je suis chrétien, Christ est chez lui. Mais ça va pas. Ça ne va pas toujours de soi. Parfois, nos pensées, nos activités sont tellement loin de Dieu que Christ doit se sentir vraiment étranger dans nos âmes. Il doit se dire, mais ce chrétien pense pas beaucoup à Dieu. Ce chrétien, il n'est pas très préoccupé des choses spirituelles et éternelles. Christ peut se sentir un étranger avec nous. C'est arrivé même dans une église, l'église de Laodicée, où Christ se tient à la porte, il est dehors, Il frappe, laissez-moi entrer dans l'église. Et l'église de Laodicée se réunit, je ne sais pas ce qu'il faisait, hein, mais Christ n'était pas là, ça c'est sûr. La vie chrétienne normale, c'est quand Christ se sent chez lui, dans notre cœur. C'est-à-dire, on est toujours avec lui. Tout ce qu'on fait, même les choses les plus matérielles ou, je sais pas, faire la cuisine, faire le ménage, Christ est là avec nous et surtout, on l'invite avec nous. Seigneur, aide-moi à passer l'aspirateur. Aide-moi à faire le repassage. Aide-moi à faire ce repas. Aide-moi à faire ce travail. Le Seigneur veut être partout chez lui dans notre vie. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et pas seulement être là le dimanche. Éphésiens 3, 19 et 20, que vous connaissiez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Remarquez encore les mots qu'il emploie, les superlatifs en permanence, hein, qui surpasse toute connaissance, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Déjà, le mot plénitude veut tout dire, mais en plus, toute la plénitude. Je pense que c'est un essai de traduction du grec, là. C'est la pleine plénitude. Ça peut pas, ça, c'est pas du bon français, ça, hein, mais c'est un peu ça. Et la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Ça n'arrive pas seulement une fois dans sa vie. C'est ce que le Saint-Esprit a pour nous en permanence à disposition. Le Saint-Esprit n'est pas une petite ampoule qui brûle dans nos cœurs et qui de temps en temps nous donne un petit peu de chaleur, un peu de lumière. Le Saint-Esprit, c'est une centrale atomique. Hein. Il a une puissance, une force, une sainteté, un amour, il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous. Et la vie chrétienne normale, c'est que cet Esprit rayonne en nous et vive en nous. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit à travers nous? C'est notre chair, c'est-à-dire notre vieille nature. Dans nos paroles, dans nos actions. Mais le Saint-Esprit veut nous donner une puissance spirituelle au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Malheureusement, nous sommes souvent, comme je disais, faussement humbles. Nous disons, oh, moi je ne suis qu'un petit chrétien, un clochard spirituel, un mendiant de la foi. Et le Seigneur dit, vous êtes des princes de la foi. Vous êtes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et le Seigneur vous donne toutes choses spirituelles, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour avoir une vie chrétienne victorieuse. On a tout à disposition. C'est comme quelqu'un qui met à votre disposition une voiture de location. Avec la voiture, il vous donne les clés, les papiers, l'assurance. Il y a même du carburant dans la voiture. La voiture fonctionne normalement. Il vous donne tout ce qui va avec la voiture. Il ne vous donne pas la voiture en disant « Ah, le volant, on l'a perdu. Hein. » Ah ça, les papiers, on n'en a pas. On n'a jamais eu de papier, donc vous débrouillez. Si vous faites arrêter, c'est vous le responsable. Non, il vous donne tout. Le Seigneur ne fait pas moins que cela. Il nous donne le salut. Il nous donne tout avec Christ. Il nous donne... S'il nous dit... Vivez la vie chrétienne, soyez remplis de l'Esprit, il nous donne tout ce qu'il faut pour vivre cette vie chrétienne. Et c'est notre incrédulité qui nous limite. Ce n'est pas Dieu qui nous limite, c'est notre incrédulité ou notre ignorance parfois. Éphésiens 4, 24 nous parle toujours de la vie chrétienne normale, qui est de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous remarquez encore cette expression « créé ». On avait vu en Éphésiens 2, 10, « Nous avons été créés en Jésus-Christ ». Et là, il dit « créé selon Dieu ». Ça parle de quoi? Ça parle de la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque Dieu, le Saint-Esprit, vient en nous, il nous recrée spirituellement. C'est vraiment un acte de création où il nous redonne vie, comme il a créé la terre, hein, et à partir d'un magma, hein, de informe et vide, eh bien, le Seigneur prend notre âme informe et vide, et il y met son esprit, il y met sa vie, il nous recrée. Et là, il dit qu'il faut revêtir l'homme nouveau que Dieu a créé, justement. Et j'aime bien cette idée de revêtir, hein. C'est vraiment en parlant, c'est prendre un nouveau vêtement. On jette à la poubelle notre vieux manteau troué et sale, et on met la veste que le Seigneur nous a préparée, une veste parfaite, et on s'en revêt. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est que tout ce que le vieil homme avait, il faut s'en débarrasser. Toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, tout ce qui était de l'ancienne vie sans Christ, sans Dieu. Et on apprend à revêtir le nouvel homme. C'est-à-dire, on n'est pas à faire des efforts impossibles, surhumains, à dire maintenant, il faut que j'arrête de me mettre en colère. Il faut que j'arrête, il faut que je me maîtrise. À chaque fois, je me mets en colère. Alors, ah, j'y arrive pas. Parce que quand on est colérique, c'est très dur de se maîtriser. Ou il faut que j'arrête d'avoir des mauvaises pensées, de juger les gens. Alors, je ne vais plus penser les gens. Puis alors, vous regardez les gens, puis tout de suite, les gros défauts sortent. Non, 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 c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de très bien. Et puis, vos pensées sont plus fortes. Vous critiquez, vous jugez. Ah, c'est surhumain. Ce sont des choses trop élevées pour notre vieille nature. Notre vieille nature ne sait que pécher. Il faut revêtir la nature nouvelle, le nouvel homme que Dieu a créé. Seigneur, où est ce nouvel homme qui ne juge pas les autres? Je veux le revêtir, m'en revêtir. Où est ce nouvel homme qui ne se met pas en colère? Seigneur, je veux le mettre. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans leurs anciens péchés, dans leurs vieilles habitudes, et qui disent « Oh non, ça, j'en serai débarrassé à ma mort. » Mais non. Mais non, si Christ est vivant, si Christ est le Seigneur, si Christ nous a pardonné nos péchés, c'est pour nous transformer. Si la nouvelle naissance veut dire quelque chose, c'est bien dans ce domaine-là. Hein. Revêtir l'homme nouveau. Seigneur, je te prie, c'est ça la vie chrétienne normale. Je veux revêtir ce nouvel Emmanuel, ce nouveau, vous mettez votre prénom, que tu as créé, préparé pour moi. Éphésiens 5, 18 nous parle de la plénitude de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a certains groupes qui interprètent bizarrement ce verset en disant ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc quand on est rempli de l'esprit, c'est comme si on était ivre. Et ils imaginent que la plénitude du Saint-Esprit s'accompagne d'une sorte de transe ou d'extase ou d'ivresse spirituelle. Ils disent, d'ailleurs, regardez dans le livre des Actes au chapitre 2, quand les apôtres se sont mis à parler en langue à la fameuse Pentecôte à Jérusalem, les gens ont cru qu'ils étaient ivres. Mais est-ce qu'il y a jamais un passage où on a l'impression que les apôtres sont ivres, où ils tombent par terre complètement... Non. Ici, ce verset est vraiment clair si on le prend d'un air détaché et neutre. Ne vous enivrez pas de vin parce que c'est de la débauche, c'est du désordre. L'ivresse alcoolique entraîne la débauche, c'est-à-dire un désordre total. Vous ne maîtrisez plus rien. Vous êtes complètement maîtrisé par votre ivresse. Hein. C'est ça, d'ailleurs, ce que recherchent les gens qui s'enivrent. C'est d'être... aspirer dans autre chose, de ne plus penser au présent et d'être complètement emporté. Et Dieu dit, ça, c'est l'ivresse du vin. Maintenant, moi, je vous dis, soyez remplis de l'esprit, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on est toujours dans la maîtrise. On ne perd pas, on n'est pas dans le désordre, dans la débauche, mais c'est le Saint-Esprit qui nous maîtrise. On est sous l'autorité du Saint-Esprit. Et ça n'entraîne pas des débordements ou des attitudes inconvenantes ou bizarres, mais ça entraîne quelque chose d'extraordinaire qui est décrit ensuite d'ailleurs. Il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. » Ce sera une partie de mon message de dimanche, donc je ne vais pas élaborer ici, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on a envie de célébrer le Seigneur, de le chanter, de le remercier. On a envie de lui dire notre joie. Parce qu'on est heureux avec le Seigneur. On goûte combien il est bon. On est reconnaissant. La débauche, elle, entraîne des comportements absolument inqualifiables, désordonnés, qui ne glorifient pas Dieu. Mais la plénitude du Saint-Esprit, qui est tout à fait la vie chrétienne normale, entraîne une vie abondante, joyeuse. Il y a une joie. Il y a une sagesse, un ordre qui rentre là dans la vie. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour les missionnaires et les pasteurs, c'est pour tout chrétien. Éphésiens 5, 22 concerne le couple. D'abord la femme, femme au pluriel, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Voilà un verset qui choque d'abord les incroyants, les incrédules, les femmes surtout, qui disent voilà, on revient en arrière, la libération de la femme est annulée par ce verset, je ne veux rien entendre de plus, ne me parlez plus de la Bible, femmes soyez soumises à vos maris, c'est un scandale. Bien sûr, si c'est compris dans la façon moyenâgeuse qu'ont certains maris de se comporter, c'est-à-dire comme une sorte de tyran, dictateur qui est affalé dans son sofa et qui attend que sa femme vienne le servir à tout moment, c'est sûr, je ne suis pas d'accord non plus avec cette vision-là. Mais la vision de la soumission dans la Bible est tout à fait différente. Et une femme chrétienne normale est une femme qui a appris cette soumission à son mari. Elle reconnaît que Dieu a placé son mari comme autorité dans la famille. C'est ça, la soumission d'abord. On reconnaît que toute autorité vient de Dieu et que le chef de famille, c'est le mari. La difficulté, c'est quand le mari ne se comporte pas en chef. C'est-à-dire, le mari soit ne fait rien, soit laisse sa femme tout diriger, ce qui arrive de plus en plus, soit il est un mauvais chef, c'est-à-dire tout ce qu'il sait, c'est aboyer des ordres et rien d'autre. Mais ça, c'est la responsabilité du mari, la responsabilité de son épouse, c'est d'obéir au Seigneur. Femme, soyez soumise à vos maris. Parce que quand une femme est soumise dans le sens où elle vient à l'aide de son mari, il y a dans le couple quelque chose qui se solidifie. Le mari, d'abord, est encouragé par son épouse et non pas méprisé, moqué ou rejeté. Il sent que son épouse l'encourage et lui, ça l'encourage à prendre ses responsabilités parce que les hommes sont faibles, malheureusement. Et ils ont besoin d'être encouragés, souvent, à prendre leurs responsabilités. Et il faut que l'épouse ait cette sagesse de l'encourager sans prendre elle-même la responsabilité en disant « Bon, bah, puisque tu fiches rien, c'est moi qui vais le faire. » Non, il faut avoir ce courage et cette patience de dire « Hé, c'est à toi de le faire. Tu es le chef de famille. » Bien sûr, il y a toutes sortes de cas particuliers, etc., qu'on pourrait citer, mais c'est quand même un grand principe biblique. La vie chrétienne normale, c'est dans le couple, femme, soyez soumise à votre mari. Vous êtes une aide semblable à l'homme. C'est ce que Dieu dit dans la création. Vous êtes égale. Vous avez la même relation avec Dieu. Vous n'êtes pas inférieur devant Dieu ou quoi que ce soit. Mais dans le couple, vous êtes l'aide. Vous êtes celle qui va soutenir le mari dans ses responsabilités. Marie, alors bien sûr, on ne reste pas avec les femmes, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce qui est demandé au mari est presque plus élevé qu'aux femmes, là. C'est aimez-les, aimez votre épouse en vous sacrifiant pour elle. Et là aussi, il y a beaucoup de maris qui ont à apprendre ce qu'est être un mari chrétien normal. Un mari qui se sacrifie pour sa femme, c'est vraiment la grande exception dans le monde. Franchement, il mérite la Légion d'honneur. Beaucoup de gens qui ont la Légion d'honneur, on ne sait pas pourquoi ils l'ont, si ce n'est parce qu'ils sont amis du ministre. Mais un mari qui aime sa femme en se sacrifiant pour elle, il mérite la Légion d'honneur. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, ça devient tellement rare de donner sa vie pour elle, de l'aimer. Aimer, ça veut dire, selon Dieu, donner sa vie pour cette personne, être prêt à sacrifier. Sacrifier mon temps, mon intérêt personnel, mon égoïsme, mon ego, n'est-ce pas ? Je suis prêt à reconnaître que j'ai eu tort. Ouh là là, ça c'est dur. Mais si j'aime mon épouse, il y a des moments où il faut dire, oui, j'ai tort, tu as raison chérie. Tu as raison. Et c'est ça que Dieu demande, et ça devrait être la normalité. En lisant l'Épître aux Éphésiens, on se rend compte combien on est loin de la normalité chrétienne, mais ça ne doit pas nous décourager, ça doit nous pousser à dire, Seigneur, je veux atteindre ce que tu me dis là. Pour les enfants, c'est le chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Bien sûr, ça paraît tout à fait simple. Enfants, obéissez à vos parents, bah oui. Mais quand, rappelez-vous, quand vous aviez 8-9 ans et que vos parents vous demandaient « Range ta chambre, fais ton lit ou fais ceci hein. », obéir était compliqué, difficile même, ça nous paraissait impossible. Et pourtant, le Seigneur le demande. Et pour un enfant chrétien, ça doit être la norme. Un enfant chrétien doit être obéissant à ses parents. Les parents, verset 4, doivent respecter leurs enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. Il faut que les pères, ça veut dire parents, là, hein, c'est le père et la mère, c'est de ne pas accabler votre enfant. Il y a cette histoire qui est arrivée hier, qui est un peu tragique, bien qu'on n'en connaisse pas les tenants et les aboutissants, mais c'est cette petite fille de 8 ans qui a commis un larcin à l'école. Elle a volé, je crois, dans le porte-monnaie de sa maîtresse, à 8 ans, vous vous rendez compte. Et donc, elle est convoquée à l'école. Ensuite, elle revient à la maison. La mère la gronde. Et elle a une grande sœur qui la gronde encore plus. Et le soir arrive, le père rentre et elle voit sa grande sœur qui va parler à son père. Et elle se dit, ça y est, je vais avoir une troisième, je vais avoir droit, quoi. Même peut-être une rouste. Hein. Et quand elle voit sa sœur aller parler à son père, elle ouvre la fenêtre et elle saute par la fenêtre. À 8 ans. Voilà. Grâce à Dieu, elle n'est pas morte. Elle a été sauvée à l'hôpital. Mais on peut, à un moment, accabler son enfant au point qu'il ne sait plus quoi faire pour s'en sortir, pour plaire ou pour... Voilà, il faut toujours laisser la porte au pardon. Toujours laisser à son enfant, écoute, tu as fait une faute, c'est très grave, mais si tu demandes pardon et que tu ne recommences plus, tout ira bien pour toi. Lui laisser toujours la porte ouverte. Si on le pourrit comme du poisson, comme on dit, l'enfant va être complètement découragé et va penser qu'il est vraiment mauvais et il va agir comme quelqu'un de mauvais ou il va faire des actes parfois extrêmes. Père, n'irritez pas vos enfants. Et puis, verset 5 du chapitre 6, d'obéir à son patron, c'est la vie chrétienne normale. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Là, il y a du travail aussi. C'est un chrétien normal obéit à son patron. Bien sûr, il peut toujours faire des remarques, dire « Est-ce que vous êtes sûr ? Ça, ce ne serait pas mieux. » Il ne s'agit pas d'être une sorte de serpillière. Hein. Oui. Il faut avoir de la personnalité, mais reconnaître que le patron, c'est lui. Et moi, je suis un employé. Les chefs chrétiens doivent aussi respecter leurs employés. Et un chef chrétien doit se comporter comme un modèle, justement, envers ses employés. Et puis, chapitre 6, verset 18, la vie chrétienne normale, c'est de prier par l'Esprit et pour tous les saints. Pour tous les chrétiens, alors ça ne veut pas dire tous les chrétiens du monde, on ne les connaît pas, mais de ne négliger aucun chrétien parce que tous ont besoin de prière, d'avoir une vie de prière intense, d'avoir une vie d'intercession. Comment sommes-nous appelés quand on est sauvé? On est appelés des sacrificateurs pour Dieu, c'est dans l'Apocalypse 1, 6. Hein. Nous sommes des sacrificateurs, des prêtres. Qu'est-ce que faisaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament? Principalement, ils présentaient les sacrifices, ça veut dire qu'ils... À quoi ça servait? Voilà, ils étaient intercesseurs, ils étaient médiateurs entre le croyant qui venait apporter son sacrifice et Dieu. Voilà, porte exactement sur son cœur, hein, et c'est aussi ce symbole. Bon, c'est un symbole de Christ, un type de Christ, mais quelque part, nous devons porter dans notre cœur nos frères et sœurs, dans la prière. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Ce n'est pas de prier pour soi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non, la vie chrétienne normale, c'est de prier pour les saints, les frères et sœurs. D'avoir une vie par l'esprit aussi, hein, de prière par l'esprit. Je ne peux pas m'attarder ce soir sur ce que ça veut dire, mais on ne peut pas prier sans le Saint-Esprit. Parce que on va prier selon notre chair, selon nos propres idées, et on va prier de travers. Parce qu'on va dire, ben, moi, ce que je vois qu'il aurait besoin, et là, il aura besoin d'une bonne correction. Non, il aura besoin d'une... Non, là, il aura besoin d'une arrivée d'argent massive. Mais peut-être c'est pas ça que Dieu veut faire. Priez par l'Esprit, vous allez prier la bonne chose pour la bonne personne au bon moment. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous pousser et vous diriger dans la prière. Nous avons un grand Dieu et la vie chrétienne normale qu'il nous propose est extraordinaire et merveilleuse. Et nous sommes tellement loin qu'il y a du travail pour y arriver. Il faut vraiment prier, croire, saisir ses promesses. On peut relire Éphésiens, on peut regarder à nouveau ces versets qui nous sautent aux yeux et que le Seigneur nous donne une vie riche spirituellement et abondante. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur qui a livré sa vie, qui a quitté sa gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur. C'est un tel privilège d'avoir Dieu en nous, d'avoir toutes les bénédictions spirituelles, d'être déjà dans les lieux célestes avec toi Seigneur, d'être héritier avec Christ. Seigneur, ouvre nos yeux parce que nous sommes vraiment aveugles là-dessus. Ouvre nos yeux quand nous prions. Ouvre nos yeux quand nous lisons la Bible. Ouvre nos yeux quand nous sommes au travail ou à la maison, en famille, dans le métro. Que nos yeux s'ouvrent sur la vie chrétienne que tu nous apportes et que tu nous donnes gratuitement. Amen. On peut chanter les deux dernières strophes du 189. Tu l'as fermé ou tu l'as toujours? Donc c'est je ne crains rien. Me protège, mes pleurs.
plus d'amertume et les fois que m'inspirait la mort et son corps.